Le tour du monde des idées, Brice Couturier.
Bonjour Brice.
Bonjour Florian.
Oui, parce que chez nous aussi, ça grimpe le podcast. Alors, à la surprise générale, Brice, et contre l'avis des partis de gouvernement, les électeurs britanniques ont choisi par référendum, c'était le 23 juin dernier, de quitter l'Union européenne. La Chambre des communes a donné son feu vert la semaine dernière à l'ouverture des négociations de rupture. Comment se présente le divorce? C'est un peu la question que vous posez ce matin. Consentement mutuel ou faute? Quelles conséquences économiques et morales pour les séparer? Voilà la question que vous posez dans ce monde des idées.
Mieux vaut pour la Grande-Bretagne pas d'accord du tout qu'un mauvais accord. Theresa May, Premier ministre, a été claire, tel est l'état d'esprit dans lequel vont s'ouvrir le mois prochain les négociations de divorce entre le Royaume-Uni et l'Union européenne. Le risque existe, en effet, qu'on ne parvienne à aucun accord satisfaisant. On dira que c'est improbable, tant les deux parties auraient à y perdre, comme dans le cas d'ailleurs de la plupart des divorces. Mais voilà, nous nous trouvons dans une nouvelle époque, une époque dans laquelle les intérêts économiques deviennent étrangement secondaires par rapport aux enjeux politiques. On n'aurait probablement pas raisonné dans ces termes il y a 15 ans, à l'époque où Tony Blair était Premier ministre de Grande-Bretagne et Manuel Barroso, président de la Commission européenne. C'était alors la raison économique qui s'imposait, mais aujourd'hui, la raison politique l'emporte et c'est un signe des temps. Alors du côté de l'Union européenne, la priorité politique est de faire passer un message sans ambiguïté au peuple des États membres qui seraient tentés de suivre l'exemple britannique. Oui, il est possible de rompre et de s'en aller, ce n'est pas interdit, mais cela exige le passage par une négociation longue et compliquée et le ticket de sortie se paye d'un prix élevé. Un prix qu'à Bruxelles, on souhaite dissuasif. Pour le moment, on parle de 40 à 60 milliards d'euros. Si l'adhésion au club européen se mérite, on ne devrait pas pouvoir en sortir sur un coup de tête. Il y a des élections aux Pays-Bas dans un mois. Le parti de la liberté de Geert Wilders, le PVV, caracole en tête des sondages avec 22% des intentions de vote. Le PVV est comme le Front National un parti populiste, hostile à l'immigration et à l'Union européenne. S'ils venaient aux Hollandais l'idée de mettre leurs pas dans ceux des Anglais, le détricotage de l'Union européenne entraînerait vite la disparition du bloc. Le rêve que font ensemble Donald Trump et Vladimir Poutine et qu'ils encouragent du reste en sous-main.
Et alors, du côté britannique, les Anglais ont réputé pragmatiques, peu sensibles aux séductions de l'idéologie. Leur intérêt bien compris doit les incliner à ménager leur relation commerciale avec l'Union européenne. Qu'en est-il?
Eh bien, la nouveauté, Florian, c'est que du côté britannique, aussi les préoccupations politiques dominent. Les électeurs ont voté pour le Brexit à 52%, alors que la quasi-totalité des économistes et des grands patrons anglais avaient prédit qu'un tel résultat électoral entraînerait un important recul de la croissance. Certes, il n'en a rien été jusqu'ici, ce qui prouve d'ailleurs que les demi-vérités et les réalités alternatives ne sont pas le monopole des populistes. La croissance britannique en 2016 a été supérieure aux prévisions et exactement le double de celle de la France, élève passable du club européen. 2,2% chez eux contre 1,1% chez nous. Mais le chancelier de l'échiquier, Philip Hammond, table sur un ralentissement l'an prochain à 1,4%. En Grande-Bretagne aussi, la première ministre, Theresa May, a fixé un ordre des priorités qui, selon Mark Leonard, place au premier rang les objectifs politiques. Premièrement, préserver l'unité du Parti conservateur. Deuxièmement, récupérer la souveraineté britannique afin de stopper l'immigration et d'échapper à la juridiction de la Cour européenne de justice. Comme on le voit, les intérêts économiques britanniques arrivent en troisième position. Alors Theresa May est probablement le dirigeant politique qui a le mieux compris cette inversion de l'ordre des priorités pour les électeurs. Oui, ceux-ci n'hésitent plus à voter, comme on dit, contre leurs intérêts. En tout cas, dès lors qu'ils considèrent que le pouvoir leur échappe, qu'ils glissent de leurs parlements nationaux vers des instances supranationales sur lesquelles ils n'ont que peu de contrôle et qui ont peu de comptes à leur rendre. C'est pourquoi le Brexit devra avoir notamment pour conséquence de sensibles améliorations dans le fonctionnement de l'Union européenne si celle-ci veut poursuivre sa route, comme y appelle notamment Paul de Grove du think tank Center for European Policy Studies. Le parti conservateur, selon Jean-Louis Bourlange sur Telos, est partagé entre trois tendances. Des sociaux conservateurs, des nationalistes et des libéraux. Eh bien, c'est une alliance des deux premiers contre les troisièmes qui a provoqué le Brexit. Theresa May, qui a emménagé au 10 Downing Street il y a 7 mois aujourd'hui, appartient manifestement à la tendance sociale conservatrice. Elle jouit de taux de popularité avantageux. L'état de grâce se prolonge pour elle bien au-delà de celui qu'ont connu ses prédécesseurs. Avec 46% d'opinions favorables contre 40% de défavorables, elle est encore ce mois-ci la personnalité politique préférée des Britanniques. Son rival, le leader travailliste Jeremy Corbyn, n'obtient que 22% d'opinions favorables contre 62% défavorables. Elle s'est engagée à ne pas provoquer d'élections anticipées cette année, alors même qu'elle ne dispose que d'une majorité étroite de 16 sièges au Parlement. Mais si elle en avait décidé autrement, en l'état actuel des choses, son parti conservateur l'emporterait aisément. On comprend que cette solidité en interne renforce sa main dans les négociations qui vont s'engager. Elles ne seront pas faciles, comme j'essaierai de le montrer demain.